When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Bonjour, c'est Jean Berthelot de L'Aglété, de l'équipe Podcasting. Bienvenue dans L'Actu dans la Poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, signé Podcasting. Podcasting, ce sont des entretiens avec des journalistes de la région, mais aussi des séries, des longs reportages et des interviews. L'épisode du jour de L'Actu dans la Poche vous est présenté par Gabriel Taïeb.
Nous sommes journalistes de presse écrite, web, radio, télévision et photographes. Nous sommes, par nos histoires, nos origines ethniques, nos couleurs de peau, nos religions, concernés par le racisme dans la société française, y compris dans les médias. Nous avons décidé de créer l'association des journalistes antiracistes et racisés, AJAR, pour s'attaquer au racisme dans le journalisme. Ces mots, publiés le 20 mars dernier dans le journal Libération, constituent l'introduction du manifeste de l'AJAR. Signé par un collectif de syndicats et d'organisations de presse, ainsi que par 167 journalistes issus d'une pluralité de rédactions, le texte officialise la création de l'association, qui multiplie depuis les prises de parole pour un meilleur traitement des personnes racisées dans les médias. Pour nous en parler, nous recevons Iris Ouedraogo et Sarah Boss, toutes deux journalistes, et respectivement co-trésorières et co-secrétaires de l'AJAR. Iris et Sarah, bonjour.
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 Nous parlerons dans un instant des actions de l'association, mais tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer comment et pourquoi s'est créé l'AJAR ? Quel a été le facteur déclencheur ?
Donc AJAR, c'est une association qui a une histoire assez récente, puisqu'effectivement, elle a été officialisée en mars dernier, mais ça faisait déjà plusieurs mois qu'on se réunissait de manière un peu plus informelle dans un petit groupe de journalistes racisés, où on essayait un peu de voir comment on pourrait se structurer. Et dans un premier temps, l'idée, c'était déjà d'avoir un groupe de soutien entre nous pour échanger sur nos expériences assez similaires, d'être souvent les seules personnes racisées de nos rédactions et d'être victimes de racisme au travail, donc auprès de nos collègues ou de notre hiérarchie, mais aussi sur le terrain. Ça a débuté comme ça, et puis petit à petit, on a essayé de réfléchir à comment est-ce qu'on pouvait structurer les choses et créer une vraie structure, une vraie association. Et depuis le mois de mars, on est 200 adhérents au sein de l'association.
On a deux axes de travail principaux. Le premier, c'est de se soutenir entre nous, d'être un réseau pour nous-mêmes aussi. Enfin, d'être un réseau de soutien, que ce soit, comme tu disais, Iris, d'être un espace de parole et de soutien, mais aussi, du coup, de soutien professionnel, par exemple, en se partageant des offres d'emploi ou en se relisant au moment de nos candidatures, etc. Le deuxième axe, c'est de lutter contre le racisme dans le traitement médiatique. Voilà, de tout ce qui est publié au niveau des médias, que ce soit en vidéo ou de tout ce qui est écrit, parce qu'on... Enfin voilà, ça, on a tous le même constat aussi d'un racisme qui est partagé, enfin des tas de clichés qu'on retrouve partout dans les médias, et on a décidé de créer aussi cette association pour enrayer cette dynamique-là. J'ai l'impression qu'on n'avait pas vraiment d'espace, en tout cas pour en parler. Enfin, comme tu disais, Iris, on est souvent les seules personnes racisées, soit en école, soit en rédaction. Donc parler de racisme quand on est seul, ça a toujours été très compliqué.
Et je pense qu'on avait besoin d'avoir un espace où on peut se sentir compris. Pas besoin de devoir réexpliquer ou se justifier sur des expériences qu'on peut vivre. Parce qu'en fait, même si on a plein d'origines dans l'association, pas les mêmes vécus, on vient pas forcément tous des mêmes milieux sociaux, mais en tout cas, il y a quand même des expériences qui sont assez universelles entre nous. Et ça, c'est des choses qui sont beaucoup plus simples à raconter et à auprès de gens qui comprennent. L'objectif numéro un, c'était déjà de rompre avec la solitude qu'on peut ressentir quand on est victime de discrimination et qu'en fait, au sein de la rédaction ou à l'école de journalisme, ben, on sait pas trop à qui en parler, en fait. Et c'est aussi un de nos objectifs, c'est d'avoir d'être ce relais-là pour les journalistes et les étudiants victimes de racisme, d'être un acteur identifié lorsqu'on subit une discrimination ou que on rencontre des difficultés sur le terrain, avoir tout de suite une personne à qui en parler, c'est l'objectif de l'association.
Vous l'indiquez bien dans votre tribune, le racisme dans le journalisme commence dès l'école. Comment cela se manifeste-t-il et quelles en sont les conséquences pour les concernés et le secteur ?
En école, on est rarement plusieurs personnes racisées. Enfin, par exemple, dans mon école de journalisme, j'étais quasiment la seule. On est souvent peut-être une, deux, trois personnes racisées par promo. En fait, sur une cinquantaine de journalistes, c'est extrêmement peu. C'est pas du tout représentatif du reste de la société. Et enfin, voilà, souvent, c'est une découverte en fait, du manque de diversité totale dans la profession. Moi, je pensais pas du tout qu'on était si peu de personnes racisées, si peu de personnes issues de classes populaires. Et tout ça, ensuite, ça va se retrouver en rédaction. De la même manière, on retrouve ensuite cette même homogénéité dans les rédactions. Et enfin, voilà, c'est au carrefour de beaucoup d'inégalités d'accès au métier de journalisme.
Oui, pour rebondir sur ce que dit Sarah, ce qu'on a pu constater, c'est que les étudiants et étudiantes en école de journalisme, qui sont ben effectivement pour la plupart assez isolés, très tôt peuvent être victimes de racisme auprès de leurs camarades d'école, en fait. Et on a fait un travail de recensement, un petit peu de témoignages, lorsque l'association est devenue publique. On a reçu quand même beaucoup de témoignages c'est souvent sous couvert de blagues, dans des conversations de promo, dans des groupes de conversations sur Messenger ou sur WhatsApp. Donc ça peut être des blagues racistes, ça peut aussi être dire à une personne qui a décroché un poste ou une alternance dans une rédaction que c'est le quota de personnes racisées, que c'est de la discrimination positive et que c'est pas mérité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup retrouvé aussi dans les témoignages. Et ce qui est problématique aussi, c'est que encore une fois, il n'y a pas de référent sur ces sujets-là dans les écoles de journalisme. Enfin, même si la victime en parle publiquement, il n'y a pas de sanctions, ou très peu. Et il n'y a pas de référents qui sont à même de recueillir cette parole-là. Et donc l'association, pour l'instant, dans les écoles de journalisme, on est plus sur un volet de formation, donc de venir dans les promotions pour parler des biais racistes qu'on peut avoir en tant que journaliste. Et après, on aimerait bien aussi, à terme, pouvoir être des référents sur ces sujets-là et venir former davantage le personnel des écoles pour qu'ils soient à même d'agir correctement quand il y a du racisme au sein de l'établissement.
Par ailleurs, vous notez que ce sont des phénomènes que l'on retrouve ensuite dans les rédactions, aussi bien d'ailleurs dans celles dites de gauche que celles de droite, c'est bien ça ?
Oui, oui. Ouais, non, là, pour le coup, là-dessus, c'est assez universel. Je pense que on n'a pas encore trouvé de rédaction où il n'y a pas de problème lié au racisme, et tout simplement parce que c'est des reflets de la société française et que ce soit des rédactions de gauche ou de droite, il y a des biais racistes à déconstruire et globalement, personne n'est à l'abri de ça. C'est malheureusement assez banal en fait pour nous d'être confrontés à ça. Ensuite, on essaie de le gérer comme on peut, mais il n'y a pas de rédaction où il n'y a pas de soucis liés au racisme en France, quoi. Ou alors, s'il y en a une, faudrait qu'on nous le dise, mais on n'a pas encore trouvé.
Oui, je suis assez d'accord. C'est partagé. Enfin, ça revient tout le temps. On a eu une enquête d'ailleurs du SNJ-CGT qui a été publiée là au mois d'avril, il me semble, sur la prégnance en tout cas des faits de racisme dans les rédactions. Ils ont eu des chiffres de, il me semble, une personne sur deux qui a été témoin de faits de racisme dans sa rédaction. Donc c'est quand même assez important, et on n'est qu'au début en fait de cette prise de conscience là, et ce sont les tout premiers chiffres en fait sur la question, parce que ça, pendant très longtemps ça a été un angle mort, parce que la plupart du temps les rédactions et les écoles aussi le découvrent en fait, et n'y avaient jamais pensé, n'avaient jamais vu le problème. Donc voilà, c'est beaucoup de choses pour nous en tout cas à amener sur la table, à déconstruire. C'est que le début de tout ce travail là. Et d'ailleurs souvent dans les rédactions, quand on voit qu'il y a quelques personnes racisées, la plupart du temps, c'est des personnes qui sont en stage ou en alternance. Enfin voilà, c'est vraiment dans les statuts les plus précaires qui ne donnent pas forcément accès en plus derrière à un emploi. Parce que parfois aussi, les alternants se succèdent année après année. Enfin voilà. Donc c'est souvent dans ces postes-là aussi qu'on retrouve les personnes racisées d'ailleurs. Donc ça pose aussi question sur quelles sont les politiques de recrutement des rédactions à cet égard-là, quoi.
Le problème aussi pour moi, c'est que quand on arrive à accéder aux rédactions, les conditions de travail, le racisme, le fait que... il y a plein d'autres problématiques, le soupçon de militantisme, etc., fait qu'on n'a pas forcément envie d'y rester. Et on en a parlé au SNJ-CGT cette semaine, mais en fait, on est aussi plusieurs journalistes racisés à un peu faire le choix de la pige, parce que la vie en rédaction est trop compliquée et qu'on préfère travailler dans notre coin, ne pas être confronté aux micro-agressions tous les jours. Mais du coup, ça veut dire qu'on est en situation de précarité et on n'obtiendra pas le même niveau de revenus que nos camarades de promo qui sont blancs. Et c'est aussi une problématique importante. I've been taught to respect my elders and behave, even if when they were young they sold slaves. Truth and understanding is what I crave in the land of the thief, home of the slave. Turn your page to a brief demonstration, 'cause now in 90 it's strictly information I'm giving, teaching on a regular basis. Today's lecture is about the races. We're not out to exaggerate or diss them, but show the symptoms and facts of racism. Understand, the races ain't equal. There's about five different types of racist people. First of the five different types of cases is the individual brought up racist. Here you have young men and women brought up in the great white way opinion. This opinion introduced by the parent to the civilized becomes transparent. A civilized man could look through the faces, make the analysis and see the races.
Depuis la création de l'AJAR en début d'année, quelles actions ont été menées? Est-ce que des projets spécifiques sont en cours de création actuellement?
En fait, on est organisé en commission dans l'association, et il y a une commission formation qui est déjà intervenue dans un établissement scolaire, donc pour essayer de mettre à jour les biais racistes qu'on peut découvrir, qu'on peut lire dans la presse, dans les médias en général. Donc c'est déjà une action qui est assez, qui est bien développée déjà dans l'association et qui est importante. Et il y a aussi un travail de veille médiatique qui est assez actif depuis le début de l'association, où quelques-uns de nos membres surveillent un petit peu ce qui se fait dans la presse et décortiquent les biais racistes, les propos racistes qu'on peut lire, sans parfois réaliser que c'est des propos qui sont problématiques. Donc ça, c'est un travail de décryptage et d'explication que nos membres font. Et l'idée, c'est de le mettre à la disposition du public, donc des journalistes, pour que déjà ils réalisent que il y a des propos, des façons d'écrire qui sont racistes et il faut le dire, et aussi des lecteurs et des lectrices pour qu'ils puissent aussi repérer plus facilement les choses qui posent problème.
Totalement, et je me disais aussi que c'était quelque chose d'assez important finalement de montrer qu'il y a aussi des journalistes qui se battent contre le racisme, parce que il y a toute une partie de la population qui est régulièrement stigmatisée dans les médias. On va penser par exemple au traitement médiatique des banlieues, au traitement médiatique des populations musulmanes en France, ou des populations issues des gens du voyage entre guillemets. Mais voilà, c'est aussi des parties de la population qui se sentent tellement tout le temps stigmatisées dans les médias et qui se disent que de toute façon les médias sont tous racistes, etc. Enfin, il me semblait que c'était aussi important en tout cas de montrer que de l'intérieur on peut changer les choses, et qu'on voit aussi le problème et qu'on est prêt à travailler sur tout ça. Quand on pense à la perte de vitesse et de la perte de confiance de la population française vis-à-vis des médias, enfin de montrer qu'il y a du travail sur tout ça, c'est aussi, et montrer qu'il faut lutter pour améliorer la représentation de la population dans les médias, tout ça, ça peut aussi améliorer finalement la confiance qu'on peut avoir et le fait de se reconnaître par exemple dans les médias, etc. Enfin tout ça, c'est pas du tout anodin au final.
Il y a quelques mois, nous avons reçu à notre micro l'association des journalistes lesbiennes, gays, bi, trans et intersexes, que vous citez dans votre manifeste comme une source d'inspiration et qui a d'ailleurs salué votre initiative. Est-ce que vous travaillez au quotidien avec d'autres associations ou collectifs pour améliorer les pratiques du secteur médiatique ?
On ne travaille pas encore au quotidien. Enfin, on veut avoir un travail interassociatif. Enfin, on se met vraiment en contact avec Prenons la Une et la JL. Mais enfin, voilà, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et sinon, on a eu pas mal de contacts aussi d'autres associations, mais plutôt d'usagers, enfin des associations antiracistes qui nous ont contactés aussi pour nous rencontrer, pour voir quel travail on peut faire ensemble. Parce que par exemple, dans la commission formation, notre association est en train de créer aussi un kit, exactement comme le fait la JL, un kit qui à destination des rédactions et des écoles, pour expliquer comment mieux traiter des points, par exemple les questions migratoires, comment les traiter sans être raciste, parce que manifestement c'est un peu compliqué pour certaines rédactions. Donc on a ce kit qui est en création et on a du coup des contacts avec des associations qui peuvent aussi nous aiguiller pour la création du kit ou alors pour d'autres actions ultérieures. Ça nous semblait important en tout cas d'être dans un maillage associatif.
Oui, tout à fait. Et dernièrement, on a été invité par le SNJ-CGT à participer à une journée de séminaire sur les risques psychosociaux des journalistes. Et ça nous a permis d'échanger avec d'autres associations de journalistes, donc comme la JL, Prenons la Une et aussi Profession Pigiste, et d'essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble pour soit se rediriger des personnes qui ont des besoins de conseils, ou même mettre en place peut-être des événements en commun pour pouvoir mutualiser un peu nos savoirs et nos façons de faire, quoi.
Depuis la publication de votre manifeste et la création de votre compte Twitter, quelles ont été les réactions de la part des journalistes et des rédactions ?
J'ai l'impression que les réactions sont positives, en fait, à 99%. En réalité, je crois c'était attendu depuis longtemps, la création de cette association. Enfin, en tout cas, moi, je sais que j'attendais depuis longtemps et on a l'impression que, notamment chez les jeunes journalistes, c'était un besoin très important. Et dans les rédactions, alors Sarah, tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas eu beaucoup de soutien affiché par des directeurs de médias. On en a eu un petit peu, mais globalement, c'est assez discret. Je pense que c'est plutôt des journalistes qui individuellement avaient ont ressenti le besoin de se tourner vers nous, mais ça reste un sujet très sensible, en fait, le racisme dans les médias. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, ça touche aussi bien des rédactions de gauche que de droite. Le fait d'accepter de se remettre en question et d'accepter qu'on peut avoir des biais racistes dans son travail, c'est encore un peu long. Donc nous, on est là pour ne rien lâcher et entretenir un rapport de force pour que les directeurs de médias nous suivent et que les choses avancent. Mais pour l'instant, je trouve que c'est assez timide.
Complètement. Moi, j'ai quand même l'impression que pour l'instant, ça reste un non-sujet pour beaucoup de rédactions. Enfin, j'ai l'impression que quand on en parle individuellement, il y a des personnes qui nous disent « Ah, super, Ajar et tout, bien sûr, et tout ça. » Mais sinon, en réalité, j'ai l'impression que ça passe un peu à côté. Enfin, en tout cas, au niveau des rédactions, j'ai l'impression qu'on est un peu ignoré quand même. À part quelques médias, justement, qui sont vraiment sur nos mêmes créneaux, comme Getty News, qui est un média qui travaille conjointement entre journalistes français et exilés, et qui travaille sur les questions migratoires, ou alors Bisaï Media, qui est un média aussi associatif sur les questions d'identité culturelle, etc. Eux, ils nous ont contactés très vite, mais sinon, j'ai l'impression que les rédactions habituelles font comme si on n'existait pas vraiment. Enfin, voilà, j'ai l'impression que les écoles ont compris qu'elles avaient besoin de nous, et du coup, les écoles nous ont beaucoup contactés, mais les rédactions en tant que telles, pas vraiment. En tout cas, j'ai pas trop eu cette impression-là.
Iris Ouedraogo et Sarah Boss, merci. Comment suivre et soutenir les actions de l'association des journalistes antiracistes et racisés?
Déjà, vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux. On est sur Instagram, Twitter et même Facebook. Donc, vous pouvez déjà suivre ce qu'on fait, retweeter et en parler aussi autour de vous. Si vous êtes journaliste, en parler dans vos rédactions, si vous êtes étudiant en journalisme, etc.
Et puis, donc évidemment, s'il y a des journalistes racisés qui nous écoutent, on vous invite à adhérer à l'association. On est ouvert à tous les journalistes racisés. Et pour les personnes qui sont pas concernées, il y a une possibilité de nous soutenir donc en partageant ce qu'on publie sur les réseaux sociaux, en nous faisant des dons, et aussi en venant à nos prochains événements, parce qu'on a prévu... d'en organiser prochainement, et puis voilà, de partager au maximum ce qu'on fait et de nous soutenir publiquement, ça nous fait beaucoup de bien.
Merci Gabriel Taïeb, c'est la fin de cet épisode de podcasting L'actu dans la poche. Merci d'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Etchari, Myrène Garay-Cochea, Agathe Hernier, Inès Chiari, Raphaël Larder, Raphaël Orenbuch et Marion Ruot. Coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Taïeb, iconographie Magali Maricot. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est L'actu dans la poche.